L'amour. Ah, l'amour. Oh, l'amour. C'est chimique, c'est scientifique. Suffirait-il de quelques molécules dans notre cerveau ou ailleurs pour que notre vie sentimentale et sociale se transforme en feu d'artifice perpétuel?
Personnellement, je pense effectivement qu'il y a plus que seulement les molécules. On peut faire certaines expériences et étudier certains mécanismes de base chez les animaux. Et bien sûr, fort chance que ça fonctionne de la même façon chez nous. Mais c'est pas tout.
Eh ben oui, sinon ça aurait été trop simple, non? Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui n'améliorera pas votre vie sentimentale, mais qui vous donnera peut-être quelques clés pour faire la part des choses entre les hormones, la chimie et ce qui relève de la subjectivité ou de l'expérience personnelle. Microsciences, un podcast de la RTS. Ron Stoop est spécialiste de la neuromodulation du comportement émotionnel et il est professeur associé à l'Université de Lausanne au Centre de neurosciences psychiatriques. Et c'est un spécialiste de l'ocytocine, une hormone qui est souvent citée quand on parle d'amour. Et les questions que se posent les scientifiques sur l'amour sont nombreuses. Qu'est-ce qui fait que deux êtres éprouvent une attirance? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour créer un lien? Pourquoi ce lien dure dans certains cas, s'étiole, se rompt dans d'autres cas?
Une question à vous encore. Vous faites une différence entre amour, tomber amoureux et amour?
Bon, normalement, c'est moi qui pose les questions. Mais celle-ci mérite d'être traitée. Et visiblement, notre interlocuteur du jour, d'origine néerlandaise, y voit une différence.
Oui, on a une différence entre le mot « verliefd » et « liefde ». C'est deux choses différentes. « Verliefd », c'est plutôt cet état de presque chimique, je dirais, non? D'avoir un fort besoin d'être avec une autre personne. Et puis, ça peut être même être vraiment... on manque, presque. Et tandis que liefde, ça peut être aussi plus général pour beaucoup d'autres choses, mais pour une personne, en principe, c'est plus une sorte d'état stable qui n'a pas cette forte compulsivité, dimension de manque. Oui, c'est presque plus incorporé, on pourrait dire, peut-être.
Et c'est important, cette nuance, quand on veut scientifiquement étudier les grands sentiments.
D'étudier l'amour, le liefde, c'est plus difficile. Au moins avec des modèles animaux, je dirais. C'est difficile de voir regarder dans la tête d'un animal, bien sûr, comme c'est aussi difficile de regarder dans la tête d'une autre personne. Mais au moins, on a plus de communication, on peut discuter, on peut dire les choses, on peut mettre des mots dessus. Chez l'animal, on a pu étudier certaines substances chimiques qui sont importantes pour leur comportement de s'associer l'un avec l'autre.
Et on va plonger dans ces substances. La plus connue, je l'ai dit, c'est l'ocytocine, celle que l'on nomme parfois l'hormone de l'amour. Cette hormone, on la retrouve chez les animaux aussi.
Chez les campagnols, il y a deux types, des campagnols de prairie et des campagnols de montagne. Et les campagnols de prairie sont connus pour faire des couples pour la vie.
Ah ah, on entre dans le vif du sujet.
Il ne faut pas le prendre trop blanc et noir, mais il y a une certaine tendance à le rester ensemble et s'occuper de les petits après, ensemble.
Donc un modèle très classique.
Pour l'humanité, si on veut. Chez les animaux, ce n'est pas si souvent, on ne voit pas ça énormément. Il y a certains bons exemples, les cygnes, encore des dauphins, je pense, ils font ça aussi. Mais il y a beaucoup d'animaux, il n'y aurait pas ces couples pour la vie. Les campagnols, c'est un bon exemple. Les campagnols de prairie, parce que les campagnols de montagne, ce n'est juste pas le cas. Là, quand ils sont accouplés, ils restent ensemble. Et on a pu établir que ça, c'est lié avec l'ocytocine et la vasopressine. Et ces deux hormones sont très similaires. Et chez la femelle, c'est l'ocytocine, la sécrétion d'ocytocine qui est très importante pour faire le couple stable. Chez le mâle, c'est justement la vasopressine. Et on a pu trouver qu'il y a une intéressante différence par rapport à la sensibilité pour ces deux hormones chez les campagnols de prairie, par rapport aux campagnols de montagne. Les campagnols de prairie ont plus de récepteurs dans certaines régions du cerveau pour la vasopressine et l'ocytocine. Alors ça, c'est une première corrélation, ça veut encore rien dire, bien sûr. Mais après, mes collègues ont pu aussi établir que si on bloque ces récepteurs pendant l'accouplement, cette couple ne se forme pas, cette partenariat stable ne se forme pas. Chez la femelle, si on bloque les récepteurs de l'oxytocine. Et chez les mâles, c'est pour la vasopressine, si on arrête ça. Alors ça a mis beaucoup d'attention sur ces deux récepteurs pour vérifier à quel point ça pourrait être un modèle humain aussi pour les couples stables.
Et ces travaux ont fait du bruit à la fin des années 90. C'est l'équipe de Thomas Insel, un pharmacologue américain, qui les a menés. Mais on va se calmer tout de suite. Rien n'indique que l'ocytocine est vraiment l'hormone de l'amour. Et non, ce n'est pas non plus celle de la fidélité. L'ocytocine facilite les liens entre les individus. En fait, l'ocytocine a de multiples fonctions. Elle a été initialement découverte pour son rôle dans l'accouplement et dans l'allaitement.
L'ocytocine a été utilisée comme médicament pour stimuler ce genre de fonctions. Il y a même des sprays disponibles pour ça, pour stimuler l'allaitement.
Mais en règle générale, nous produisons notre ocytocine dès la naissance. Elle est utile dans tous les liens, ceux qui se tissent entre les parents et leurs petits.
C'est probablement quelque chose qui s'installe comme mécanisme dès la première enfance, dès le contact de l'enfant avec la mère, va probablement aussi se développer à ce moment-là. Ce développement de ce système pourrait être stimulé par cette première contact social, par cette première contact avec le parent, la mère, le père, d'une façon régulière. L'oxytocine va être relâché dans le contact avec l'autre personne et ça peut lui conforter alors. Et quand le parent est là, cet enfant va être conforté par la présence du parent.
En fait, l'ocytocine est un antistress que notre cerveau fabrique tout seul.
Et nous avons aussi découvert, il y a maintenant presque 20 ans, que l'oxytocine joue un énorme rôle important pour détendre, si on veut, diminuer l'activité dans la région de la peur. Cette région, c'est un petit noyau dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale, dans les lobes temporales, à gauche à droite. Cette région, on vit toutes des réactions de peur chez l'animal et chez l'humain aussi.
Et apprendre à ne pas avoir peur de l'autre, c'est une première étape essentielle pour établir une relation. Mais alors, ça voudrait dire que je pourrais utiliser un spray nasal d'ocytocine pour être plus réceptive? Je sais pas, moi, avant de me rendre dans une soirée où j'ai pas envie d'aller, une réunion de travail, les repas chez la belle famille, une réunion de parents d'élèves...
Peut-être, je dirais pas aussi fort que ça. Qui sait, certainement qu'on arrive à mettre sur point un spray qui fonctionnerait de cette façon-là dans le cerveau, parce que le spray en ce moment est utilisé surtout pour stimuler l'allaitement. À quel point ce spray arrive aussi dans les différentes régions du cerveau, c'est encore un grand débat. Cela ne dépend pas seulement de si vous avez l'oxytocine ou pas, parce qu'il y a deux facteurs là-dedans. D'un côté, l'oxytocine, le produit par le cerveau, et d'autre côté, les récepteurs de l'oxytocine. Et là, il y a des grandes différences. Chez les campagnols, on voit les différences de l'expression des récepteurs. Ça veut dire que la sensibilité de l'oxytocine peut être très différente entre une personne ou l'autre.
Bon, d'accord. La théorie, c'est super, hein, mais en pratique, la production d'ocytocine varie d'une personne à l'autre. Et l'effet qu'elle aura dans notre cerveau aussi. Et là, mon esprit tordu se demande si, par exemple, les psychopathes ne seraient pas en manque d'ocytocine. Après tout, c'est une hormone qui régit nos liens sociaux.
Vous n'avez pas aller si loin que ça. Parce qu'un psychopathe, c'est quand même une personnalité très complexe. Ça ne va pas avec une molécule. Mais on peut s'imaginer qu'on pourra rendre certaines personnes plus sociales, hein, en stimulant, en utilisant le spray, ou peut-être en ayant des possibilités de changer le taux d'expression de récepteurs.
Et j'aurai des noms à donner pour les personnes à traiter, mais je vais les garder pour moi. Et si vous m'envoyez un mail à microscience@rts.ch, je peux peut-être entrer en matière. On ne peut donc pas agir sur la production ou la sensibilité à l'ocytocine, même si on y songe.
Dans le développement de l'enfant, il y a certaines périodes critiques pendant lesquelles certains systèmes sont formés. C'est très bien connu avec le système visuel. Si on a un œil qui a certainement eu un accident, il faut fermer l'autre œil aussi, parce que pendant certaines périodes de développement, parce qu'autrement il y a des forts problèmes plus tard dans la vie. Alors on pense pour l'ocytocine, ça pourrait être la même chose, et les récepteurs. Et peut-être c'est possible d'ouvrir ces périodes critiques. Il y a des médicaments, il y a certaines indications que certains médicaments peuvent de nouveau nous rendre sensibles à des changements de nos circuits neuronaux.
Au même titre que les antidépresseurs comme le Prozac modifient notre cerveau et nous permettent de remodeler certains circuits de neurones, on peut imaginer dans le futur des médicaments qui remodeleraient notre production et notre sensibilité à l'ocytocine. Les faisceaux de preuves sont là. L'ocytocine est l'hormone naturelle du bien-être. Ocytocine, aussi dans les moments intimes.
On a pu établir aussi que pendant l'accouplement, il y a un fort relâchement de l'ocytocine dans le cerveau, ce qui peut être lié avec tout un changement d'état du cerveau pour devenir plus réceptif. Ça, c'est chez les rongeurs qu'on a pu faire ça. Et on a pu aussi établir qu'enfin, l'excitement sexuel, l'érection par exemple, et au niveau périphérique, c'est aussi un rôle d'ocytocine par exemple.
Et pendant l'acte amoureux, ça monte, ça monte, ça monte. L'ocytocine, donc. Mais les scientifiques nous l'expliquent, nous n'y réagissons pas forcément de la même manière. Et là, tout à coup, on comprend mieux pourquoi certaines d'entre nous s'attachent irrémédiablement à l'autre et pourquoi certaines personnes ont, pour ainsi dire, un cœur en téflon, anti-adhésif. Mais si une hormone régit notre attachement, cela n'explique pas d'où vient cette étincelle qui met le feu au coup de foudre. Ce premier regard, celui qui vrille littéralement nos neurones, celui qui flotte dans l'air, celui qui suspend le temps. L'atome crochu. C'est chimique?
J'ai entendu parler des personnes qui disent que c'est des anecdotes, mais ils ont senti une certaine attirance vis-à-vis d'une autre personne, juste en étant quelques minutes avec cette personne, comme effectivement avec le sentiment comme si il y avait quelque chose effectivement dans l'air qui induisait fortement à un rapprochement.
Oui, c'est ça. Love is in the air.
Les phéromones qui peuvent attirer l'un à l'autre. On discute de temps en temps avec ma femme qui travaille dans ce domaine. Elle est chercheur ici à l'Université de Lausanne aussi. Les phéromones, il semble que oui. Enfin, chez l'humain, il y a eu des expériences qui ont été bien faites avec les très jolis exemples. Si on laisse une personne choisir une chaise dans une salle qui est vide, et il y a eu quelqu'un d'autre qui a été dans cette salle avant cette personne, mais qui n'est pas visible, il semble que si c'est un homme, que la femme se mette plutôt sur la chaise où l'homme a été déjà. Il y a des indications qu'effectivement, il y a quelque chose qui reste dans l'air qui peut induire un rapprochement. Et ça pourrait être des phéromones.
Ah, les phéromones. On en entend souvent parler. Hein. Ça, c'était dans la moitié des années 90. Klaus Wedekind, un chercheur de l'Université de Lausanne, avait montré qu'en faisant sentir à des femmes des t-shirts portés par des hommes différents, elles étaient attirées par ceux qui étaient génétiquement le plus éloignés d'elles. La raison probable est parfaitement pragmatique. Il s'agit de garantir la diversité génétique de la progéniture à venir. Un mystère donc, mais qui explique pourquoi certaines attirances ou certaines répulsions sont spontanées. Cela dit, on n'a toujours pas trouvé quelle molécule exactement agit sur le désir chez les humains et les humaines. Et non, parce que sinon, vous pensez bien que tous les fabricants de parfums en ajouteraient en grande quantité dans leurs produits.
Bien sûr, nombre d'autres facteurs qui jouent un rôle. Chez l'animal et chez l'humain, des modulateurs, neuromodulateurs, qui peuvent être très importants pour induire une certaine motivation. La dopamine, c'est un bon exemple, peut être un important facteur.
Ah bah voilà, la dopamine. On la tient, c'est elle. Elle est impliquée dans notre circuit de récompense. Elle nous motive, nous transporte, nous fait pousser des ailes, ajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et elle nous rend invincibles quand on tombe en amour.
C'est aussi très dérangeant d'être amoureux parce que ça amène à des comportements qui sont souvent très irrationnels. Quelqu'un qui est amoureux, la nourriture est quelque chose qui est affecté aussi. Il y a beaucoup de process physiologiques qui ne sont pas très bien gérés ensuite. Ce n'est pas un état qu'on aimera expérimenter toute sa vie. Probablement, c'est une bonne fonction pour attirer une première attraction entre différents individus.
Oui. J'ai compris. En gros, il faut que ça redescende, parce que ce n'est pas vivable de flotter à 30 cm du sol en permanence. Mais ce qui serait utile, à nous, à l'humanité, à la couplologie, c'est qu'on puisse évaluer l'ampleur du coup de foudre. Et ce qui serait vachement bien aussi, c'est qu'on puisse savoir si la taille du coup de foudre, le niveau de dopamine, a un lien avec une histoire qui marche, qui tient dans le temps, où tout le monde est content, ou avec un truc qui va foirer complètement.
Est-ce que les dopamines, les niveaux de dopamine sont plus hauts pendant, par exemple, l'état d'être amoureux? Je ne pense pas que ça ait été vraiment mesuré chez l'humain. Je ne saurais pas vous dire directement, mais je ne pense pas.
Zut, encore raté. Mais si on résume, on peut, sans trop s'avancer, dire que la dopamine est impliquée dans le début de la relation, dans la rencontre avec l'autre, et que l'ocytocine est impliquée dans la construction de la relation, et que c'est pour ça qu'on l'appelle l'hormone de l'attachement. On y est, là ?
Bon, certainement, dopamine, ce serait une forte stimulance pour être motivé. Oui, on pourrait dire que l'ocytocine est plus pour l'attachement à long terme.
Donc, allez, on joue un peu là sur l'équilibre entre les deux. Ça pourrait être tous les jours la Saint-Valentin.
Mais même là encore, qu'est-ce qu'on peut faire? Finalement, on peut peut-être bloquer le processus en bloquant certaines voies de signalisation. Oui, ça, on sait maintenant. On peut même les restaurer, ces voies, en ajoutant le molécule qui manque. Mais le total du process, c'est quand même plus complexe. On ne peut pas décider maintenant, alors on va faire donner sept cocktails de molécules. Et avec ça, on va induire l'amour instantané de l'une pour l'autre. Je n'ai pas encore vu ces genres d'expériences. Si vous avez quelque chose, je suis bien partenaire pour les essayer.
Bon, l'amour est peut-être aveugle. Mais il est surtout sourd aux appels des scientifiques qui cherchent à le comprendre.
Pourquoi mon orteil me fait si mal quand je le cogne? Pourquoi je dors? Pourquoi je rêve? Qui a inventé la seconde? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre? Où est la lumière quand j'éteins ma lampe? Mon ficus essaie-t-il de me parler?
Si ce podcast vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux et abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou PlayRTS. Leurs yeux sont pleins de bienveillance et ils distillent toutes les molécules nécessaires à la fabrication de ce podcast. Camille Dupont-Laïte, coproductrice qui donne des ailes à chaque épisode. Mathieu Ramsauer, réalisateur, toujours toutoui et plein de bon sens. Jérôme Nussbaum et son habillage musical qui touche le cœur de Microsciences. Moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique, chercheuse de sciences et de poésie.